Le journal Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Des funérailles à Windsor, sans public, sans procession et une image saisissante. La reine en noir, masque noir, tête baissée, seule devant le cercueil de son mari. La reine Elisabeth II et le royaume ont fait leurs adieux au prince Philippe. Nous serons à Londres avec Richard Place dans un instant. 1 milliard d'euros pour les viticulteurs et les producteurs de fruits sous le choc de la vague de froid et de gel. Une enveloppe exceptionnelle pour une catastrophe exceptionnelle, indique le Premier ministre. 3 millions de morts de coronavirus dans le monde, en France, des créneaux dédiés de vaccination, notamment pour les enseignants de plus de 55 ans, ouvrent aujourd'hui et des internes en médecine épuisés qui manifestent. Dans ce journal également, la gauche en voie de rassemblement, un rassemblement rose-vert et notre rendez-vous du samedi 19h avec Ma Vie Connectée et Christine Siméon consacrée aux robots. La météo pour demain, soleil à l'ouest, nuages à l'est, les températures remontent lentement. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
C'est l'image forte et émouvante de cette journée historique pour les Britanniques et retransmise dans le monde entier. La reine Elisabeth II, toute vêtue de noir, masque noir, assise seule pendant les funérailles de son époux, le prince Philippe. En direct de Londres, on retrouve notre correspondant Richard Place. Bonsoir Richard.
Bonsoir.
Des funérailles en petit comité et avec des images marquantes.
Oui, et cette image en particulier, celle de la reine, effectivement seule, qui est arrivée dans sa Bentley, qui s'est rendue ensuite dans cette chapelle et qui s'est installée sans personne à côté d'elle parce que ce sont les restrictions sanitaires. Et donc cette image d'une reine, d'une femme de 95 ans qui enterre celui qui était son mari depuis 74 ans, voilà qui était forcément très émouvant. Et d'ailleurs, ceux qui ont suivi cette cérémonie depuis chez eux, à la télévision, à la radio, comme Francis, qui est un vrai royaliste, était particulièrement ému. Quand vous perdez un membre de la famille royale, c'est toujours un peu spécial. Et je pense à la reine en particulier. C'est vraiment un modèle pour nous. Tout le monde l'observe ici. C'est un repère pour les Britanniques. Elle a toujours été là. Ça va être étrange désormais. C'est triste aujourd'hui. Je partage son chagrin. C'était son mari pendant 74 ans. Il a toujours été là, avec elle. C'est une triste journée. Triste pour la famille royale et triste pour tout le pays aussi.
Sans doute pas un avis très partagé dans le pays. Le prince Philippe était précieux pour la reine, mais aussi gaffeur en public avec des déclarations plus que limites par moments qui l'ont parfois rendu sympathique parce qu'accessible et tout simplement populaire. Il a su convaincre les plus réticents qui aujourd'hui, à Londres, saluent sa mémoire.
Je ne crois pas en la famille royale à titre personnel, mais j'admirais le prince Philippe. Je pense qu'il a fait un super boulot aux côtés de la reine pendant toutes ces années. Ça n'a pas dû être facile avec cette famille, ses enfants, etc. Alors oui, j'admire l'homme et je respecte ce qu'il a fait.
La reine, derrière son masque noir, n'a encore une fois pas laissé paraître grand-chose, mais une bonne partie du royaume a partagé son chagrin.
Richard Place, en direct de Londres. Un fonds de solidarité exceptionnel d'1 milliard d'euros pour les viticulteurs et les producteurs de fruits dont les exploitations ont été dévastées par le gel de ces derniers jours. Le Premier ministre Jean Castex, ce matin, avec des exploitants de l'Hérault, a expliqué que l'État doit être à la hauteur de cette catastrophe exceptionnelle. Sophie Noga, présidente de la FDSEA 34, la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles de l'Hérault, n'en espérait pas tant.
Catastrophe exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je vous avoue, je suis agréablement surprise. Vraiment, parce qu'on demandait beaucoup. Et là, on est arrivé à une grosse entente avec des annonces qui ont été claires, bien précises. Et oui, ça va nous aider à nous relever. C'est ce que j'ai dit auprès du Premier ministre et du ministre de l'Agriculture. Nous avons les deux genoux à terre et les mains aussi dans du sable mouvant. Et les deux bras qui peuvent nous en sortir, c'est l'État. Et il est venu avec... ce qu'il faut, et les collectivités territoriales qui depuis le début, depuis une semaine, sont derrière nous. Et je pense qu'avec ces deux bras, le fait de nous enlever les deux mains de ce marasme qu'on a, nos deux genoux, nous, avec la puissance et la robustesse du monde agricole, on va réussir à les relever.
Sophie Noga avec Marie Siavati de France Bleu Hérault. Un hommage silencieux pour donner l'alerte sur la charge de travail, l'épuisement et dans le pire des cas, le suicide des internes en médecine. Depuis le mois de janvier, selon l'intersyndicale des internes en médecine, un interne s'est suicidé tous les 18 jours. En cause, les conditions de travail et la cadence infernale imposée par la crise du coronavirus. Cet après-midi, un rassemblement silencieux s'est tenu devant le ministère de la Santé. Delphine Evenou.
Des noms écrits en blanc sur des panneaux noirs, ceux de 7 médecins morts pendant leur internat. Luc Marbach dépose une fleur pour sa fille, Élise, interne à Lyon, en épuisement professionnel. Elle s'est suicidée en 2019.
Les internes font près de 60 heures en moyenne, ça monte jusqu'à 100 heures par semaine. Et rien ne bouge. La loi impose une limite à 48 heures, ils en font 60. Que fait le ministère? Que fait le gouvernement? Que font les services hospitaliers? Rien, parce que ça arrange tout le monde.
Le respect du temps de travail, c'est la seule revendication de ces blouses blanches au visage jeune. Leïla, 29 ans, termine son internat en médecine générale.
On ne demande rien de plus, parce qu'au bout d'un moment, en fait, à force d'essorer, on n'a plus rien à essorer. Ce ne serait pas le fait de nous donner quelques centaines d'euros supplémentaires qui changerait quoi que ce soit. On n'a plus rien à donner, en fait. On est épuisé. Et nous, c'est juste qu'on veut pouvoir exercer, pouvoir apprendre dans de bonnes conditions.
D'autant que la crise sanitaire a amplifié les souffrances et la colère, selon Gaëtan Casanova, le président de l'intersyndicale nationale des internes.
Ce rassemblement, il fait écho aux paroles du président de la République qui a dit « il va falloir vous en demander plus ». Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, on n'est pas à demander plus, on est probablement à demander trop.
Jeudi, le ministre de la Santé a promis aux représentants des internes des mesures d'ici la fin de l'été. Avec un suicide tous les 18 jours en moyenne depuis le début de l'année, soupir Gaëtan Casanova, c'est beaucoup trop tard.
Delphine Evenou, le cap des 3 millions de morts du coronavirus dans le monde franchi aujourd'hui. Après une légère accalmie, le nombre de décès quotidiens est de nouveau en hausse. Des pays comme l'Inde et le Brésil font face à une progression fulgurante des contaminations. En France, l'épidémie se stabilise mais reste à un niveau élevé et dans le même temps, la vaccination continue de progresser. Des créneaux dédiés sont ouverts depuis aujourd'hui pour les personnels enseignants ou les policiers de plus de 55 ans. À Châteaulin, dans le Finistère, le centre de vaccination réserve des rendez-vous spécifiques pour les enseignants et certains professeurs ont sauté sur l'opportunité. Reportage Roméo Van Maastricht, France Bleu Brésil.
Florence va se faire piquer dans quelques minutes. Elle attend son tour. Cette professeure de lycée ne pensait pas se retrouver là si vite.
Tout à fait par hasard. Hier soir, j'ai vu qu'il y avait une ouverture de la vaccination, mais c'est vraiment le pur hasard. Je ne pensais pas hier venir ici aujourd'hui.
Ils sont 2300 enseignants de plus de 55 ans dans le Finistère. L'invitation est tombée sur leur boîte mail pendant leurs vacances. De quoi rassurer Hélène, qui a sauté sur l'occasion.
Il était temps. Parce qu'on est confronté à nos élèves et nos étudiants et qu'on n'est pas forcément à l'abri. Et avec une classe de 35 en fac de soi, on se doute bien qu'il y a un risque. C'est toujours préoccupant. Maintenant, on a un vaccin, autant l'avoir, autant en profiter. Et puis voilà, on sera plus serein.
Ce sont les pompiers qui vaccinent avec AstraZeneca. Ça en inquiète certains, mais la préfecture du Finistère estime que l'opération est un succès. Aurélien Adam, le directeur du cabinet du préfet.
Pour l'instant, sur les 300 créneaux qui ont été ouverts, on est à 150 réservations. Donc on peut considérer que c'est effectivement un succès. Il s'avère que les uns les autres habitent à Brest, à Quimperlé, à Quimper, à Morlaix. Donc finalement, les enseignants acceptent de faire la route.
D'autres journées dédiées aux enseignants doivent se dérouler la semaine prochaine dans tous les départements bretons.
Et ce soir, selon le bilan donné comme tous les jours par Santé publique France, le nombre de personnes actuellement en réanimation en France a reculé à 5877 personnes contre 5914 la veille. Une première marche d'un grand escalier et pour peut-être une union de la gauche pour la présidentielle 2022. Les dirigeants de gauche qui se sont réunis ce matin ont décidé de se retrouver fin mai pour poursuivre leurs discussions en vue d'un contrat de gouvernement. Et selon Olivier Faure, premier secrétaire du PS, il y aura dans un an un projet et un candidat commun, du moins rose et vert, sans les rouges pour l'instant de la France insoumise. Simon Le Baron.
Les journalistes étaient très nombreux pour prendre la photo qui aurait pu être historique si les communistes et surtout les insoumis, qui ont déjà leur candidat pour 2022, avaient bien voulu prendre la pause.
Oui, parce que je vois bien la communication qui peut être faite autour de ça.
Le député LFI Éric Coquerel, qui représentait Jean-Luc Mélenchon en voyage en Amérique du Sud, a préféré se tenir à l'écart.
Pas d'unité artificielle, pas de division superficielle. Et la photo, ça aurait pu être un peu artificielle. Mais ça m'empêche pas, je n'étais pas très loin, vous voyez.
Tous les participants sont tout de même d'accord sur trois points. Arrêtons de nous tirer dans les pattes, faisons bloc contre la politique d'Emmanuel Macron et continuons de nous voir. Pour le reste...
Il y a un point qui ne nous réunit pas tous, et c'est pas grave.
L'écologiste Yannick Jadot à l'origine de ces retrouvailles.
C'est la perspective de construire une candidature commune autour d'un contrat de gouvernement et un accord de législative. Voilà, c'est pas grave, mais on fait ça dans le respect des uns et des autres.
La candidature commune, elle sera donc rose verte. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, est plus confiant que jamais.
C'est pas rien. C'est la première fois que ça arrive. Celles et ceux qui désespèrent de la gauche peuvent se dire à partir d'aujourd'hui que maintenant il y a quelque chose qui se passe et peut-être que l'année prochaine, on va pouvoir enfin changer les choses.
Un très grand pas vers une alliance PS-EELV, un pacte de non-agression avec la frange plus radicale, réunion très positive, disent tous les participants qui ont décidé de se retrouver dans un mois. Les insoumis ont proposé de faire cela chez eux, les autres ont dit non, ce sera à nouveau en terrain neutre.
Simon Le Baron, l'Assemblée nationale valide la création du délit d'écocide. Il s'appliquera aux atteintes les plus graves à l'environnement. Au niveau national, en revanche, il n'y aura pas de crime d'écocide, comme l'avait réclamé la Convention citoyenne pour le climat. En bref encore, Gérald Darmanin annonce l'expulsion du livreur de repas à domicile qui refusait de servir des clients juifs. Le ministre de l'Intérieur indique que la haine antisémite n'a pas sa place en France. Et puis on a appris cet après-midi la mort d'Hubert Faure, membre du commando Kieffer. Hubert Faure avait 106 ans. Il était l'un des deux derniers membres encore en vie du commando Kieffer qui avait débarqué en Normandie le 6 juin 1944. À l'étranger, Matteo Salvini sera bien jugé pour séquestration de personnes dans l'affaire de l'Open Arms. L'ancien ministre de l'Intérieur italien comparaîtra pour avoir bloqué en mer pendant plusieurs jours le navire avec 116 migrants à bord. Le procès débutera le 15 septembre. Rome, Xavier Sartre.
C'est la tête haute que Matteo Salvini se présentera devant un tribunal pour y être jugé. Le juge de l'audience préliminaire a considéré qu'il y avait assez d'éléments à charge pour justifier la tenue d'un procès contre l'ancien ministre de l'Intérieur. L'ordonnance de renvoi l'accuse de séquestration de personnes. En août 2019, il avait pendant 6 jours empêché le navire de l'ONG espagnole Open Arms de débarquer à Lampedusa 147 migrants recueillis en mer. Pour sa défense, le chef de la Ligue avait notamment argué que cette décision avait été prise en concertation avec tout le gouvernement pour défendre les frontières italiennes. Il avait également affirmé que le navire avait refusé de rejoindre Malte ou l'Espagne alors que ces solutions lui avaient été proposées. Le parquet, dans son acte d'accusation, avait lui insisté sur le fait que la décision du ministre d'alors n'était pas politique mais bien administrative. Une manière aussi de répondre aux accusations de procès politique lancées par Salvini et ses partisans vers la justice. Du côté des 21 parties civiles, dont Open Arms et 7 migrants, dont un mineur, c'est bien sûr la satisfaction qui domine. Rome, Xavier Sartre, France Inter.
En tennis, la finale du tournoi de Monte-Carlo opposera demain Stefano Tsitsipas à Andrei Rublev et puis en rugby, tournoi destination féminin. Victoire de l'équipe de France, 56 à 15 face à l'Irlande. Prochain match face à l'Angleterre samedi prochain pour la finale du tournoi. Notre rendez-vous du samedi 19h avec Christine Siméon et Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Alors les robots inquiètent autant qu'ils rendent service. Vont-ils tuer des millions d'emplois? Alexa et Google, les robots parleurs mettront-ils des idées étranges dans la tête de nos enfants? Et les voitures connectées sauront-elles éviter les piétons? Vous avez interrogé Martin Gibert qui vient de publier chez Flammarion un essai « Faire la morale aux robots ».
Martin Gibert est chercheur en éthique et toutes les questions que vous venez de poser, Frédéric, eh bien, il se les pose aussi. Mais pour commencer, il a une parole, je dirais presque rassurante pour vous.
Effectivement, il n'y a pas de raison de paniquer sur les super intelligences à court, moyen terme. En tout cas, il y a beaucoup moins de raisons de paniquer sur les super intelligences que sur la crise climatique.
Alors, si c'est moins pire que le danger climatique, on est bien d'accord que l'on a déjà épinglé les intelligences artificielles pour le biais de genre ou le biais raciste qu'elles véhiculent.
Oui, Frédéric, car les machines ne font que reproduire les discriminations et les préjugés des sociétés dans lesquelles elles sont conçues. Martin Gibert fait une proposition un peu utopique pour éviter tout ça et qui mérite d'être étudiée. En gros, il faudrait que les humains nourrissent les machines de leurs réponses vertueuses et ce, en très grand nombre.
À quoi il faut prendre garde, c'est à ne pas automatiser ces inégalités et ces injustices. Et c'est ce que pourrait être amené à faire une mauvaise programmation qui se contenterait de décalquer comment les choses sont actuellement et de les perpétuer dans un algorithme. Dans ce que je propose, ce n'est pas 15 personnes réunies dans un comité, c'est 1% de la population. S'il y a une personne dont je suis convaincu qu'elle est généreuse, qu'elle perçoit bien l'injustice, qu'elle est honnête, etc., j'ai plutôt envie de lui donner la prise de décision à elle plutôt qu'à d'autres. Et puis surtout, si j'en ai 1% de la population, là, ça semble assez safe pour les prises de décision morales.
Voilà, réunir un nombre assez significatif de réponses humaines, vertueuses, sages, ferait une bonne base de data à donner à manger aux robots.
Ma vie connectée, Christine Siméon, est retrouvée sur franceinter.fr. Le temps pour demain.
La météo avec les meubles Gautier. Créateur, designer et fabricant français de meubles pour toute la maison. À retrouver dans nos magasins et sur gautier.fr.
Jean-Michel Golinski.
À partir de demain, les températures maximales vont entamer une pente ascendante, un gain d'environ 2 degrés par rapport à aujourd'hui sur la plupart des régions, mais en fin de nuit, de faibles gelées restent probables du nord de la Loire au nord-est, en descendant vers le centre et l'intérieur de la Provence. Avec sans conteste un soleil vaillant demain pour les départements situés près de la Manche et de l'océan, alors que sur les autres régions, le ciel sera quand même plus chargé et même parfois menaçant du nord-est à l'est du Rhône. Avec des averses à prévoir l'après-midi, elles seront plus marquées de la Provence à l'Auvergne-Rhône-Alpes, se teintant parfois de coups de tonnerre, avec de la neige à moyenne altitude sur les Alpes et sur le Massif central. Et tout comme aujourd'hui, le Mistral et la Tramontane seront sensibles.
Jean-Michel Golinski de Météo France.